Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de rencontrer Benjamin Mera. Bonjour Benjamin.
Bien le bonjour.
Alors, je suis ravie parce qu'en plus, j'ai un beau gosse en face de moi. Donc, c'est tellement rare.
Arrêtez, je vais rougir.
Il va nous raconter sa petite histoire parce qu'aujourd'hui, il est en fauteuil. Il est tétraplégique. Peux-tu nous raconter qui tu étais avant l'accident ?
Alors, avant, j'étais un jeune homme de 25 ans qui venait de commencer sa vie active, qui avait trouvé un boulot dans la concession automobile Audi à Reims. J'avais plein de petits projets, que ce soit personnel ou professionnel, du coup. Et suite à une soirée, du coup, avec des amis, et plus particulièrement un saut dans un étang, ma tête a tapé le fond et du coup, ça m'a cassé une cervicale et je suis devenu tétraplégique, comme vous l'avez dit.
Aïe.
Aïe, c'est le cas de le dire.
Quel a été le moment le plus difficile après cet accident ?
Le moment le plus difficile, je ne pense pas qu'il y en a eu un en particulier. Je pense que c'était une succession de plein de petits moments. Le premier, ça a été à mon réveil en réanimation. On se réveille dans un lit d'hôpital, on se rend compte un petit peu de ce qui nous arrive. On est un peu emprisonné dans un corps qui ne bouge plus, qui n'a plus la même mobilité que 24 heures auparavant. C'est assez déroutant comme sensation, c'est assez indescriptible. Donc ça a été la première claque, entre guillemets. La deuxième, ça a été l'annonce des médecins de mon état de santé. Enfin, quand les médecins posent les mots de « vous êtes devenu tétraplégique, vous ne pourrez plus remarcher », encore une fois, c'est assez indescriptible comme sensation. Pardon. On a un peu le sentiment que le monde s'écroule autour de nous, et littéralement, et quelque chose se déchire au plus profond de nous. Quand on dit littéralement, on a le cœur qui se déchire, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et je ne saurais pas comment le définir autrement qu'avec ces mots-là. Et le troisième moment le plus difficile, je pense, c'est ce que j'évoquais juste avant qu'on commence, les 1 an de l'accident. Je m'étais fixé tout un tas de petits objectifs. J'étais beaucoup dans l'espoir de retrouver la marche, de retrouver la mobilité que j'avais avant. Donc je m'étais fixé beaucoup d'objectifs, comme je le disais, pour ces 1 an. Je m'étais dit que typiquement, j'allais retrouver tout le haut du corps et que l'année d'après, j'allais réussir à retrouver la marche. Sauf que au moment où on arrive à ces 1 an post-accident, on se rend compte que les objectifs fixés ne sont pas du tout atteints et on commence à envisager le fait que le fauteuil roulant va faire partie de notre vie pendant un petit bout de temps. Voilà.
Cet espoir de remarcher, il est toujours là ?
Alors,
c'est une question un peu en off, hein, parce que moi, je pense que j'aurais pareil que toi, l'envie de remarcher à tout prix.
En fait, je pense que l'envie est toujours là, mais c'est pas quelque chose auquel je pense tous les jours. J'ai espoir de remarcher un jour, peut-être avec une avancée au niveau de la médecine.
C'est ce que je pensais aussi.
Peut-être un miracle qui se passe, à l'intérieur de mon corps, au niveau de ma moelle épinière, etc. J'ai eu des témoignages de personnes qui avaient réussi à remarcher au bout de 6 mois après l'accident, 1 an, et j'ai même des kinés qui étaient spécialisés en blessures médulaires, donc blessures de la moelle épinière, qui me racontaient qu'ils avaient eu l'occasion de voir des personnes au bout de 7 ans remarcher, peut-être pas du jour au lendemain, mais de manière un peu miraculeuse. Donc je pense que j'ai toujours un peu l'envie, le désir, le souhait de remarcher un jour, mais encore une fois, j'y pense pas non plus, c'est pas une pensée qui me pollue au quotidien.
Puis en plus, tu es encore jeune, ça peut encore se réparer, peut-être très lentement, mais ça peut encore... voilà.
C'est ce que je me dis, on n'est pas à l'abri d'un miracle.
Voilà. Donc on parlait tout à l'heure de Grand Corps Malade,
oui.
Qui lui aussi était très tétraplégique.
Mm-hmm.
Bon, il marchait avec une canne, certes.
Oui.
Est-ce que tu as eu déjà l'occasion de lui parler, de le rencontrer ?
Alors non, j'ai pas eu l'occasion de parler à Grand Corps Malade. Mon père, à l'époque, l'avait contacté quelques jours après mon accident, histoire de peut-être avoir son témoignage ou un mot d'encouragement de sa part. Bon, après, je ne doute pas que c'est quelqu'un de très, très occupé. Mais en revanche, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec d'autres personnes tétraplégiques, notamment une personne du côté de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, qui lui a absolument tout récupéré. À l'époque où je l'avais contacté, il faisait de la mécanique sur son karting, etc. Enfin, c'est un témoignage qui m'avait beaucoup marqué et aussi beaucoup nourri. Et je m'étais beaucoup réfugié dans ce témoignage, dans ce récit, en me disant c'est obligatoire, c'est quelque chose qui m'arrivera aussi, je vais forcément récupérer et tout. Et comme je le disais aussi, j'ai été en contact... avec d'autres personnes dans la même situation que moi, en centre de rééducation notamment. Et en fait, on s'est tous nourris de nos témoignages mutuels pour aller de l'avant, pour se tirer vers le haut et juste pour se dire que la vie n'était pas finie, quoi.
Une belle équipe.
Une belle équipe, tout à fait.
Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a aidé à avancer après cet accident ?
Encore une fois, il n'y a pas eu un seul déclic, il y en a eu plusieurs. Le premier, quelques jours après mon accident, quand j'étais en réanimation, j'ai eu une longue conversation avec un infirmier avec qui je suis devenu ami, avec qui je suis toujours en contact, qui m'a expliqué pendant, je me souviens plus exactement pendant combien de temps, mais une grosse conversation d'une bonne heure, je pense, qui m'a expliqué que certes, il ne me connaissait pas, que j'avais sans doute pas mérité ce qui m'arrivait, mais que maintenant, il fallait aller de l'avant, et si je voulais avoir toutes les chances de mon côté pour récupérer le plus possible, qu'il fallait vraiment que je me batte, que la rééducation ça allait commencer assez rapidement et qu'il fallait que je me donne à fond pour avoir des chances de récupérer. Et en fait, c'est un discours qui a fait sens pendant vraiment toute ma rééducation. Et à chaque fois que j'avais un petit moment de doute, un petit coup de mou, je me replongeais un peu dans cette conversation que j'avais eue avec lui. Et encore une fois, c'est un discours qui m'a porté, qui m'a motivé pendant toute la rééducation. Et je pense qu'il fait encore écho maintenant, à l'heure actuelle.
C'était dur, la rééducation ?
C'était...
Intense,
c'est le mot que je cherchais. En fait, les journées sont rythmées dans un premier temps avec les soins hygiéniques, les médicaments le matin, etc. Ensuite, on a les premières séances de rééducation en fin de matinée, en tout cas pour ma part. Ergothérapie, on remontait le temps d'un repas, on redescendait dans la foulée pour les séances d'activité physique adaptée et aussi de kiné. J'ai eu la chance d'être très bien entouré par mes amis et ma famille. Donc dès que je remontais de séance de rééducation, c'était l'heure des visites. Et j'avoue que quand je me couchais le soir, je faisais pas long feu. Enfin, j'étais assez fatigué. Et le lendemain, rebelote, on reprenait. Il y avait juste les week-ends pour souffler, entre guillemets. C'était à la fois très long comme période d'hospitalisation, mais à la fois très rapide parce qu'en fait, on est fixé encore une fois sur les objectifs qu'on s'est donnés. Et au final, l'année et demie que j'ai passée en rééducation est quand même passée assez vite, bizarrement.
Est-ce que, comme moi, tu as perdu des amis ou des parents suite à ça ?
Je n'ai pas perdu grand monde. En fait, il me semble à peu près que j'ai perdu quelques amis, peut-être un, deux, voire trois. En fait, c'est des personnes avec qui je n'ai plus de contact du jour au lendemain suite à mon accident. Sur le coup, ça m'a un peu blessé. J'étais un peu dans l'incompréhension de, entre guillemets, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette ignorance. Avec le temps, je me suis rendu compte que ça avait juste fait un peu plus de place pour les personnes que j'ai rencontrées après.
C'était pas des vrais potes.
C'est ce que je me suis dit, oui.
Tu vois, moi aussi j'ai vécu ça.
Ouais. Désolé pour toi.
Quelles sont les choses du quotidien que les valides ne réalisent pas ?
Des choses anodines, mais juste se rendre... si on veut juste avoir des loisirs ou des activités, il faut se renseigner au préalable si le lieu est accessible. Si le lieu est adapté, je pense notamment aux sanitaires. Et après, tous les gestes du quotidien, pour moi, juste ouvrir une voiture, ça va être une petite épreuve, entre guillemets. Alors que pour une personne valide, il suffit juste de prendre ses mains et d'ouvrir le bouchon. Pour moi, ça va être une petite épreuve de quelques minutes. Au final, j'y arrive, donc je peux pas me plaindre. Mais ça me prend quand même plus de temps qu'une personne valide.
Là, je te vois devant moi, donc en fait, tu es paralysé, on va dire, au niveau du torse jusqu'en bas, c'est ça ?
Oui, en fait,
les
mains aussi. En fait, la tétraplégie, c'est une paralysie totale ou partielle des quatre membres. Donc pour ma part, je suis paralysé des pectoraux jusqu'au bout des orteils. Et j'ai aussi les mains de paralysé et une partie du bras, le triceps, ce qui m'empêche d'avoir une bonne extension du bras avec beaucoup de force. Donc,
Le basket, c'est mort.
Donc le basket, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué.
Vaut mieux en rire. Hein.
Tout à fait, oui, je suis d'accord.
Voilà, moi, je préfère rire. Hein. Je suis un petit peu comme l'humoriste Jarry.
Je vois très bien, oui.
J'adore.
Ah bah ouais, pareil. Et l'humour, ça a été un exutoire.
C'est ce qu'il faut faire.
Tout au long de la rééducation, ouais, c'était chouette. Même encore maintenant.
Ouais, moi, je m'appelle la sclérosée de la plaque. Hein, donc...
Ah, c'est pas mal.
C'est pas mal aussi.
C'est pas mal du tout.
Est-ce que tu crois que les progrès médicaux et technologiques vont changer ta vie ?
Alors, est-ce qu'ils vont changer ma vie ? Je ne pense pas, parce que je reste quand même assez frileux pour ce genre d'opération. Alors effectivement, on en entend parler de plus en plus. Cependant, si demain on me propose une opération avec, on va dire, je ne sais pas, 50% de risque que ce soit pire, mais que j'ai 50% de chance de récupérer quelque chose, je sais que l'opération, je ne la ferai pas. J'ai fourni beaucoup trop d'efforts et beaucoup trop d'énergie pour
tenter.
En tout cas, pour atteindre le niveau où je suis actuellement, j'aurais beaucoup trop peur de régresser, entre guillemets, dans les progrès que j'ai faits. Alors, par contre, à l'inverse, si demain on me propose une opération où j'ai 100% de chance de récupérer un petit peu, beaucoup...
Exosquelette,
ça ne me vend pas tant de rêves que ça, dans le sens où les mouvements que ça permet d'avoir sont quand même...
Saccadés
et assez lents, etc. Je comprends que certaines personnes soient carrément volontaires ou... veulent vraiment acquérir ce genre de matériel, mais pour moi, ça ne me conviendrait pas en tout cas.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui le plus compliqué ? Le physique, l'administratif ou le regard des autres ? Moi, personnellement, le regard des autres, j'en ai rien à...
Oui, je suis de la même team. Le regard des autres, j'en ai un peu rien à faire. Je vis pour moi, pas pour les autres, donc ça ne me fait pas grand-chose. Le physique, quand même, le fait que je sois un peu handicapé à plus de 80%, me limite quand même dans certaines choses du quotidien. Dans les déplacements, j'ai tendance à dire que c'est quand même faisable, dans le sens où maintenant, je gère bien mon fauteuil roulant, donc j'arrive à me déplacer à peu près dans n'importe quel endroit où je veux aller.
Tu es venu en...
Voiture. C'est ma maman qui m'a déposé. C'est ma maman qui m'a déposé.
Elle aurait pu venir avec nous, maman.
Oui, c'est vrai, j'aurais pu lui proposer. Et donc, physique, regard des autres... L'administratif, c'est quand même une odyssée assez complexe. Oui. Et j'ai eu la chance, du coup, d'être accompagné par ma maman, encore une fois, qui a fait absolument toutes les démarches administratives pendant ma rééducation. Donc, j'ai pas trop vu la partie submergée de l'iceberg, pour le coup. Mais je sais que c'était vraiment dense. Et des fois, on est confronté à des personnes qui sont, comment dire, pas limitées, mais dans le sens... Typiquement, je devais signer des documents, sauf qu'en tant que tétraplégique, sachant que c'était vraiment le début de ma rééducation, j'avais absolument pas l'usage de mes mains. Et les personnes étaient butées, mais si, il doit signer, il est majeur. Et c'était des situations un peu ubuesques, en fait.
C'est ça.
Donc l'administratif était une grosse épreuve, une grosse charge.
Selon toi, la France est-elle adaptée aux personnes en situation de handicap ? Tu habites Reims, je crois.
J'habite Reims. Alors la France est globalement mieux adaptée qu'avant, je pense. On va dans la bonne direction, on va dans le bon sens, mais... Je sais que comparé à d'autres pays de l'Union Européenne, on est un petit peu en retard. Et typiquement, je sais que le handicap n'est pas assez pris en compte, je pense. Et surtout, l'accessibilité est faite par des personnes qui ne sont pas concernées par le handicap. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu drôle, quand même.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Quel cliché sur la tétraplégie aimerais-tu faire disparaître ?
Dans l'inconscient collectif, quand on est tétraplégique, on est paralysé au-dessus des épaules, enfin en dessous des épaules, pardon. On n'a que la tête qui bouge. Je pense que c'est en partie à cause du film Intouchable avec François Cluzet et Omar Sy.
Très bon film.
Très très bon film d'ailleurs. On peut être tétraplégique et avoir quand même beaucoup de mobilité. La preuve en est, j'arrive à me déplacer comme je veux, etc. Et à part ça, on peut être tétraplégique et quand même sentir le toucher sur son corps. On peut être tétraplégique et retrouver la marche, on peut être tétraplégique et n'avoir absolument aucune séquelle visible. La plupart du temps, quand on voit une personne en fauteuil roulant, on pense qu'elle n'a que, entre guillemets, ses jambes qui ne fonctionnent plus. Et il y a quand même pas mal de choses derrière ce handicap visible.
Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent mieux sur le handicap invisible ou visible ?
Que c'est pas parce qu'on a un handicap invisible ou visible comme moi qu'on a forcément, des facultés mentales en moins ou ce genre de choses, ou qu'on va être différent des personnes valides sur l'aspect intellectuel, pardon. En fait, on est des personnes absolument normales, à la différence près qu'on a moins de mobilité que les personnes valides.
Est-ce que le regard des autres a évolué depuis ton accident mental ? Résilience.
Le regard que les gens ont sur moi.
Ouais. Ta famille, tes amis, depuis ton accident.
Alors, la plupart des gens de mon entourage me considèrent comme très résilient, très fort, très courageux. J'ai pas le sentiment d'être plus fort que quelqu'un, dans le sens où... En fait, je me suis juste retrouvé face à une épreuve et j'ai juste voulu aller de l'avant et m'en sortir comme je pouvais. Ça, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je me suis juste... J'ai juste l'impression d'être une personne normale qui a été confrontée à quelque chose qui n'était pas censé arriver et qui s'en est sorti comme il a pu. Et je pense que c'est peut-être en ça que mes proches me considèrent comme une personne courageuse, résiliente, etc. Et c'est un peu l'étiquette que j'ai maintenant de le petit mec de 25 ans qui a eu un accident et qui s'en est sorti comme il a pu. Voilà.
Comment tu gardes le moral dans les périodes difficiles ?
Je me force à faire tout ce dont je n'ai pas envie de faire. Typiquement... manger bien, prendre l'air, faire du sport. En fait, quand je ne vais pas bien, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, dans le sens où il faut que je me change les idées. Donc, encore une fois, je sors, je vois des amis, je me force à manger bien, j'écoute de la musique. La musique est un très bon exutoire pour ma part. Pas de musique déprimante, forcément, que des musiques bonnes vibes. Et c'est un peu mon remède quand je bois un peu du noir.
D'accord, j'ai vu quelques vidéos sur ton Facebook, j'ai été fouillée un peu, où tu danses, hein, c'est très très bien.
Oui, j'essaye un petit peu de danser, comme je peux.
Tu fais quoi comme sport?
Je fais de l'athlétisme.
Wow.
Ouais, à l'EFSRA, donc l'entente familiale, j'ai plus exactement la définition de l'acronyme, mais c'est le club d'athlétisme de Reims, du coup ils ont une section handisport et j'en fais depuis un an et demi maintenant.
C'est un bon défouloir.
C'est un bon défouloir, ouais. Et ça permet de, encore une fois, de sortir, voir du monde, bouger différemment que... Enfin, d'avoir des mouvements différents de ceux que j'ai au quotidien, de se muscler, etc. Donc non, c'est un très bon exutoire aussi.
Est-ce que tu as développé une nouvelle vision de la vie depuis l'accident ?
Totalement. En fait, je pense que maintenant, j'arrive à trouver du plaisir dans toutes les choses anodines de la vie, toutes les choses qui, je pense, n'ont pas autant d'impact sur une personne valide. En fait, en tant que valide, on a tellement une vie à 100 à l'heure, en fait, on se lève, on pense déjà à toutes les choses qu'on a à faire dans la journée, donc c'est aussi mon cas. Mais en fait, je vais trouver un peu de satisfaction dans, ça peut paraître bateau, mais un rayon de soleil à travers les arbres, juste une petite promenade dans un parc, un moment entre amis, un dîner en famille, un week-end avec des copains. Enfin, dans tous ces moments, en fait, je trouve énormément de satisfaction. Peut-être parce que j'en ai été privé pendant un an et demi, 2 ans. Je pense que c'est en ça que ma vision de la vie a changé. J'arrive à me satisfaire de peu de choses par rapport à avant, je pense.
Tu fais de la prévention dans les collèges, dans les lycées.
Tout à fait.
Pour les jeunes, pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Et puis en même temps, je pense aussi que tu donnerais plusieurs conseils à des personnes qui traversent un traumatisme similaire.
Mmh. En fait, je pense que je fais partie... Alors, en fait, parmi toutes les personnes en situation de handicap, je trouve qu'on n'est pas beaucoup à en parler avec beaucoup de liberté, de l'aisance, et pas beaucoup de tabous. Et en fait, c'est mon cas. Je parle absolument de tout ce qui me concerne avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bienveillance, je pense. Donc c'est en ça que j'aime bien faire de la sensibilisation auprès des étudiants, des collégiens, des lycéens, etc. Et ça me permet, comme tu le disais, de faire de la prévention, donc... Par rapport au risque, dans mon cas, c'était un risque en soirée avec des amis. Et c'était une zone un endroit qu'on connaissait sur le bout des doigts. Et c'est en ça que j'aime bien faire de la prévention. On dit toujours que les accidents arrivent dans les endroits qu'on connaît le mieux, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, j'essaie toujours d'avoir un message bienveillant, dans le sens où je leur dis toujours, profitez de la vie, faites tout ce que vous avez envie de faire, mais gardez toujours à l'esprit qu'il y a un risque. Essayez d'évaluer les dangers lorsque vous êtes confronté à telle ou telle situation. Mais ne vous privez pas forcément de faire ce que vous avez envie de faire. Et j'en profite aussi pour essayer de casser un peu les clichés, comme on disait tout à l'heure, sur le handicap, sur le fait que c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on peut plus forcément faire telle ou telle chose. Et c'est quelque chose qui me passionne énormément depuis que je suis en fauteuil. Voilà.
Et ça n'arrive pas qu'aux autres.
Malheureusement.
Quels sont tes projets aujourd'hui ?
Mon projet de cette année, en tout cas... On va dire cette année, année prochaine, parce que je ne sais pas si j'arriverai à le réaliser cette année. Mais c'est de refaire un petit voyage. Dans l'idée, j'aimerais bien prendre l'avion pour aller à l'étranger. Pas forcément faire un gros périple, mais quelques jours à l'étranger, histoire de retrouver les sensations de voyage, de prendre l'avion, de visiter un endroit qu'on ne connaît pas. Et à plus long terme, j'aimerais vraiment bien faire encore plus de sensibilisation, comme on disait à l'instant. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui me passionne vraiment et j'adore voir dans les yeux des gens auprès de qui j'interviens l'étonnement, le fait d'être satisfait d'apprendre quelque chose et le fait que les personnes se rendent compte qu'au final, je suis quelqu'un de normal, entre guillemets. Enfin, même pas entre guillemets, juste je suis quelqu'un de normal avec un petit truc en plus, avec des petites roulettes sous les fesses.
T'as un pays particulier ?
Là, je suis en train de me renseigner sur le Portugal.
Ah.
Parce que je sais qu'à côté de Chalon, on a Paris-Vatry, il y a des départs assez, assez réguliers, donc Portugal.
D'accord. Quel rêve aimerais-tu encore réaliser ?
Alors...
À part le voyage au Portugal.
On reste un peu dans le registre des voyages. Juste avant mon accident avec mon meilleur ami, on a eu l'occasion d'aller voir Petra en Jordanie, qui fait partie d'une des sept merveilles du monde. Enfin, qui fait partie des sept merveilles du monde, pardon. Et dans l'idée, j'aimerais bien aller voir le Machu Picchu. Sauf que le Machu Picchu, c'est un site archéologique en hauteur.
Ça grimpe.
Ouais, ça grimpe un petit peu. Et quand on est en fauteuil roulant, c'est un peu compliqué de grimper, surtout en montagne.
Trouver un porteur.
Tout à fait. J'aimerais bien essayer de me trouver...
Un âne.
Peut-être un âne ou, ou comme des Sherpas. Enfin, en tout cas, des gens où... La finalité, c'est que j'aimerais bien voir ce site archéologique de mes yeux parce que je crois qu'il est destiné... Alors, pas à être fermé, mais à... il me semble que le site...
va être restreint au public.
Tout à fait, oui. Donc, j'aimerais bien voir ce site-là avant la fameuse restriction. Et ce serait un petit rêve, ouais.
Chaises porteuses comme les rois.
Mais c'est un peu l'idée que j'ai. L'idée que j'ai.
Qu'aimerais-tu transmettre au public qui nous écoute ?
C'est un petit peu le mot que je dis toujours. Je pense que on peut être confronté à n'importe quel drame, on peut toujours s'en relever. Non pas sans quelques séquelles, mais il y a un dicton qui dit « Après la tempête vient le soleil » et je pense que c'est vraiment vrai. Il y a toujours du positif dans le négatif et il y a toujours des bonnes choses qui arrivent après des choses moins joyeuses.
Est-ce que tu as des envies de paternité ?
Oui, totalement.
T'as une fiancée ?
Je n'ai pas de fiancée. Je n'ai même pas
vu aux amatrices, il est très beau gosse. voilà, ça c'est fait, la phrase est dite. Qu'est-ce que la tétraplégie t'a pris et qu'est-ce qu'elle t'a apporté malgré tout ?
La tétraplégie m'a appris ma mobilité, la facilité et la spontanéité de mes déplacements en tant que personne valide. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté ? Encore une fois, une vision de la vie totalement différente, une vision de la vie beaucoup plus mature, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup plus de recul sur, encore une fois, les choses anodines de la vie. Je pense avoir plus de recul sur certaines choses, plus de réflexion sur les sujets de la vie de tous les jours. J'ai pas d'exemple en particulier, mais je dirais juste une meilleure maturité, peut-être pas une meilleure maturité, mais une maturité
tout court.
Générale, oui.
Générale.
Ouais.
En fait, t'as vieilli un peu plus vite.
J'ai vieilli un peu plus vite. Pas physiquement, j'espère.
Non, ça va, tout va bien. Si tu pouvais parler du toi d'avant l'accident, que lui dirais-tu ?
Fou.
C'est chaud, hein ? Ouais, je sais.
Bah, c'est une question qu'on m'a jamais posée pour le coup.
Eh ben, tu vois.
Ouais, pas mal.
J'ai gardé le meilleur pour la fin.
C'est ça. En fait, à l'époque, je pense que j'étais heureux, honnêtement. J'avais une vie professionnelle qui m'enthousiasmait au plus haut point. Une vie personnelle qui me satisfaisait. Mais je pense que j'étais quand même un peu sur des rails. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était assez...
C'était fluide, ça allait.
C'était fluide,
droit,
en fait, oui. Voilà. J'étais sur des rails, franchement. Mon avenir était un peu tracé. Et ben, je pense que... je lui dirais quelque chose du style comme...
La chute fut rude.
La chute fut rude, tu vas t'en relever et tu seras pas pour autant malheureux de ce qui va t'arriver. Bien au contraire. Et je pense que je veux dire aussi que plein de bonnes choses sont à venir malgré le drame que tu vas subir et que la vie continue globalement. Voilà.
On va finir là-dessus.
OK.
D'accord. Je te remercie beaucoup pour ce côté solaire, cette résilience, ce courage.
Merci beaucoup.
On peut le dire. Cette interview m'a particulièrement touchée. Je te remercie de ta visite.
Non, merci de m'avoir convié.
À très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt. Les avais volé à mes potes, mais je faisais semblant. Je descendrai jamais, c'est mort. Je suis trop bien dans ma branche. Je sais qu'ils m'attendent tous en bas. Je descends pas, c'est sûr qu'ils vont me faire du mal. Il faut que j'aille repeindre la grange. Car je déteste sa couleur. Oh, moi je suis soleil. Alors j'ai rien à faire ici. Je m'abîme trop sur moi, ils vont faire un film. Si je continue, c'est sûr que je vais pas réussir. L'aventure du prince, je la raconterai à mon fils. À la base, moi je suis soleil. J'ai des taches de couleur sur mes mains. Je dessine des horreurs à la craie. Alors demain, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Papa, apprends-moi à refermer la serre. Je veux recommencer ma île, j'ai trop peur de décevoir.